talmudique. Gérard Haddad, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la question de la fraternité. Notons qu'il existe ces dernières années une expression qui a cours dans les sciences humaines, la littérature et aussi la psychanalyse, peut-être pas la psychanalyse, je m'avance peut-être, vous allez me dire, pour désigner ces relations qui unissent les frères entre eux, les frères et les sœurs, et qui ont été nourris au même sein et qui sont sortis de la même matrice, on parle de relations adelphiques. Adelphos étant le frère en grec, venant lui-même de Delphus, qui est un autre mot grec signifiant « né du même sein, de la même matrice ». Mot qui a d'ailleurs donné « dauphin », cet animal qui, comme les gros cétacés, sont des mammifères qui font grandir leur fœtus en un placenta et allaitent leurs petits après la naissance. Je me suis demandé, est-ce que cette expression « relation adelphique » qui par son usage plus rare et par les précisions de son étymologie, apporte ou apporterait un éclairage nouveau à ce que vous avez appelé le complexe de Caïn. Et je pense particulièrement à saint Augustin, cité par Lacan et sur lequel vous insistez dans votre livre.
Oui, à propos de saint Augustin, c'est un passage. Et dans ce très beau livre qui s'appelle « Les Confessions », dans un des premiers chapitres, il fait cet aveu que lorsqu'il a vu son frère têtant sa mère, il était devenu vert de rage, ou il a éprouvé un sentiment. Lacan a dit, il a eu les tripes à l'air. Voir son frère au sein de sa mère, ce sein qu'on a perdu, mais dont on a gardé la nostalgie, ça vous met les tripes à l'air. Les tripes à l'air, c'est énorme, c'est-à-dire, ça vous tue, quoi. Et puisque je dois mourir, autant le tuer, lui, ce petit salaud, là, qui me prive de cet objet perdu. Donc, Lacan est revenu souvent là-dessus, comme s'il sentait qu'il fallait absolument travailler cette question du fraternel et de la rivalité fraternelle. J'ai raconté dans mon livre que, dans ma propre analyse avec lui, il s'y est intéressé tout de même, mais je pense que pas assez, quoi. Que le noyau, que le cœur de la névrose, en particulier de la névrose obsessionnelle, est à rechercher dans le complexe de Caïn, plus que dans le complexe d'Oedipe. Et donc, il y a une espèce de carence. Il y a une carence dans l'analyse qui va se traduire, comme nous l'avons déjà dit, dans l'histoire sanglante de l'histoire de la psychanalyse, qui est faite de scissions, de querelles, de chapelles, où on s'exclut mutuellement.
Complexe de Caïn, il faut le rappeler, qui est cette rivalité entre les frères.
Rivalité, je dirais plus que ça, désir de meurtre du frère. Il faut quand même aller jusqu'au bout des mots. Comme le complexe d'Oedipe, c'est le désir de meurtre du père, le parricide. Le parricide que Freud pensait que c'était à l'origine de l'histoire de l'humanité. La Torah dit, non, c'est à l'origine de l'histoire de l'humanité.
Vous parlez des frères, alors moi j'évoquais ce terme adelphique, du même sein ou de la même matrice, qui renvoie aussi, ça peut être frère et sœur. Est-ce que ce que vous appelez le complexe de Caïn, c'est-à-dire cette rivalité entre les frères, c'est entre les frères masculins, où il y aurait quelque chose aussi le frère et la sœur, ça serait du même ordre.
Je pense que la féminité quand même apporte cette douceur, ça arrondit un peu. Moi, je prends mon expérience personnelle, je fais partie d'une famille assez nombreuse, c'est tout de même ma frangine qui a toujours fait lien, grâce à cette structure qu'on appelle hystérique, qui n'a rien de péjoratif, bien au contraire. L'hystérique, c'est ce qui veut faire du lien. Ce qui est beau dans ce cadeau que nous avons reçu, la féminité, ça permet quand même... Mais ceci étant dit, ça existe aussi. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Goethe, que Freud, il a consacré un long article, Poésie et vérité, l'autobiographie de Goethe, il a voulu aussi la mort de sa sœur. Sauf que dans un deuxième temps, il va adorer cette sœur, il va même écrire une de ses premières pièces sur sa sœur.
Alors, vous dites
adorer... Mais c'est également, quand je dis complexe de Caïn, ça concerne également les rivalités entre sœurs, qui sont aussi terribles qu'entre frères masculins.
Alors, vous évoquez Goethe, et dans le cadre de ce complexe de Caïn, dans votre livre, vous parlez d'amitié fraternelle, qui est différent de cette rivalité, bien évidemment,
oui,
et même de la fraternité. On avait conclu l'émission la semaine dernière que la fraternité n'existe pas, elle doit se conquérir.
Oui.
Et là,
elle doit, se construire.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui peuvent se construire entre les personnes. À la fois cette fraternité dont on peut essayer d'en esquisser les contours, et en même temps cette amitié fraternelle qu'il y avait, par exemple, entre Goethe et Schiller. Et vous racontez un moment de votre voyage où vous avez rencontré une sculpture.
C'est ça, j'étais en voyage avec un ami tunisien, qui est un psychiatre tunisien, Salem Hamza, qui m'accompagne souvent. Et je voulais aller voir cette Allemagne de l'Est, auquel tant de choses nous rattachent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord Weimar, la ville de Weimar, qui a été un des moments importants dans la culture juive avec l'émergence du Bauhaus, qui a été fondamental, puisque Tel Aviv est la ville Bauhaus aujourd'hui. Et je voulais aller surtout à Leipzig pour m'incliner sur la tombe cet homme qui réjouit notre vie pour ceux qui sont ses fans, à savoir Jean-Sébastien Bach. J'étais très touché d'ailleurs de voir cette espèce de sentiment que Bach suscite là-bas, puisque on change tous les jours les fleurs de sa tombe, les gens viennent, et puis c'est vivant parce qu'il y a une école Bach, il y a des concerts en permanence autour de sa musique, un musée magnifique. Et en cours de route, nous sommes arrêtés avec Salem. Nous sommes à Salem, qui est un peu le début de Jérusalem, si on peut dire. Nous sommes arrêtés et soudain, ça a été un choc, je vous avoue franchement, c'était un choc de voir cette immense statue, de voir Goethe qui a la main posée sur l'épaule de Schiller. Schiller qui était persécuté par un roitelet allemand de l'époque. Et Goethe qui, au départ, avait des sentiments fratricides particulièrement développés. Il écrit à Schiller, il dit « Viens chez moi, je t'accueille, je vais te soutenir ». Deux grands écrivains qui se soutiennent, nous avons l'habitude dans le milieu analytique ou littéraire parisien, c'est plutôt le Caïn qui prédomine. Vous avez dit une très belle expression que je reprendrai volontiers à mon compte. Au fond, le but des frères, c'est d'arriver à ce sentiment d'amitié. Si on peut arriver à l'amitié entre frères, c'est ce qu'il faudrait mettre peut-être sur nos édifices publics. Liberté, égalité et amitié. L'amitié, c'est peut-être une des plus belles choses auxquelles un des plus beaux idéaux que l'on pourrait avoir, la relation d'amitié. C'est ça le but de la fraternité, d'arriver, de partir de cette haine initiale à ce sentiment de solidarité, d'affection, de compréhension qu'on appelle l'amitié.
Que vous voyez plus forte que la fraternité ?
Je pense que c'est... la vraie fraternité, c'est l'amitié. Vous savez, l'amitié, il y a des degrés, n'est-ce pas ?
Vous pensez que...
C'est une valeur plus haute.
Que entre, justement, dans ce cadre de l'amitié, il n'y a pas le risque de débordement, de retour du concept, si on peut dire, en violence, l'amitié entre...
La fraternité, c'est biologique.
Oui.
Hein? Et nous, au fond, un des apports essentiels du judaïsme, c'est de nous dégager du biologique et d'arriver à une autre dimension, la dimension du symbolique, la dimension du culturel. Toujours pour citer notre cher Lacan, qui interprétait le sacrifice... La Akedat Yitzhak, appelez ça comme vous voulez, le nouage, le sacrifice d'Isaac, il dit, au fond, ce que El Shaddai demande à Abraham, c'est de se dégager de la biologie. Parce qu'autrefois, les gens, en relation à leur divinité, biologique. Voilà. Donc, l'amitié, c'est un dégagement du biologique. Et c'est pour ça que je pense que c'est une très belle chose que l'amitié.
Là, je suis curieux, dans votre livre et dans vos propos, on sent un tel amour pour Bach que j'aimerais je dirais presque, on sent une amitié pour Bach. Il y a à la fois une vénération, une amitié.
Oui.
D'où ça vient
et
qu'est-ce que j'ai hésité beaucoup. Vous allez voir, c'est pas ce que nous allons écouter, mais dès que j'ai pensé à vous en vous ayant lu et que je devais choisir une musique, j'ai pensé à Bach. Qu'est-ce qu'il y a de tellement formidable pour vous dans Bach ?
C'est bien formidable. D'abord, c'est mon compagnon. J'ai une façon de travailler un peu particulière. Pour écrire, je mets de la musique. Et plusieurs de mes livres, en particulier Le jour où Lacan m'a donné, a été entièrement écrit en écoutant de la musique de Bach. J'ai toute son œuvre, et même plusieurs versions. Vous savez, je suis un caractériel, personnellement. Je suis pas un homme toujours paisible. Il y a dans Bach, vous savez, on dit que Dieu a une dette à l'égard de Bach. Et il y a dans Bach quelque chose qui vous élève tout de suite, qui vous apaise et qui vous met en relation avec les choses fondamentales. Et je dois aussi... c'est pour ça que je reproche ça à notre ami Albert Cohen, qui détestait Bach, qui disait que c'était une machine à coudre. Franchement, faudrait lui faire écouter un petit peu... On verra si toutes les machines à coudre c'était de cette qualité. Moi, j'écouterai les machines à coudre.
Il reste une belle écriture malgré tout.
Pardon ?
Cohen reste une très belle écriture.
Il reste une très belle écriture, un peu. Oui, mais moi je fais un peu de musique. Je touche au piano, j'ai touché au violon, je touche un peu au piano. Non pas parce que je ne prétends pas du tout à quoi que ce soit, je ne suis pas pianiste. Mais le fait de toucher soi-même au concret de la musique, ça vous met... Vous voyez ce que c'est qu'une écriture. Il y a une écriture musicale. L'écriture de Bach est parfaite. Aucun musicien n'est arrivé après lui à ce niveau. Il fascine, du coup, tous les musiciens qui ont suivi. Depuis Schumann, depuis Chopin... Le dernier en date, c'était le Schoenberg. Il y a une exposition au musée d'art juif. Tout le monde a été fasciné à tel point qu'on a jonglé avec les lettres de son nom, B-A-C-H, qui sont en fait en même temps des lettres, des notes de musique en allemand. Et voilà, Bach est,
alors, si je vous ai posé...
donne le goût de vivre. Pas tout seul, bien sûr. Écoutez Schubert, écoutez Schumann, écoutez tout ce que vous voulez. Tous ces grands musiciens nous ont fait des dons merveilleux qui font que la vie est moins triste et moins grise.
Alors, si je vous ai posé la question, j'avais une petite idée derrière la tête, malgré tout.
J'imagine.
C'est que il y a cette phrase qui est peut-être seulement un slogan qui dit « la musique adoucit les mœurs ». Et je me suis posé la question, est-ce que dans le cadre de la réflexion que vous menez, à savoir le terrorisme, est-ce que vous avez rencontré un manque de lien à la musique qui aurait peut-être pu adoucir les mœurs de cette violence que l'on traverse?
Écoutez, c'est à explorer. Je pense pas que... C'est d'ailleurs, vous savez que dans ce terrorisme islamique, la musique est interdite. Même la musique arabe, il y a une grande musique arabe qui est en fait plutôt une musique perse, irakienne, le oud qui est l'ancêtre du luth, et le rebab qui est l'ancêtre du violon. Il y a toute une tradition musulmane fondatrice de la musique. Et voilà que ces terroristes ont une haine de la musique, ils l'interdisent. Si vous avez vu le film Tombouctou, on interdisait aux gens de chanter, qui est quand même l'activité la plus extraordinaire, spontanée de l'être humain. Le terrorisme, le totalitarisme, c'est véritablement une destruction de l'être humain. Je pense que s'ils avaient aimé la musique, les terroristes, ils ne seraient pas terroristes. Oui. Ceci dit, c'est difficile à dire, puisqu'on sait que les nazis, entre deux horreurs, allaient écouter Schubert ou Beethoven ou Bach peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr pour Bach, mais pour les autres, oui.
I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center.
There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all.
Jahannam.
We here in Petah Tikva, we should be very honored to have the Alexandria Police Orchestra with us.
Will your husband agree to that?
Once when I see him, I ask him.
أيام في حضني.
أرجوكوا ما تنسوش إن إحنا هنا بالمصر المصر. وأنا بطلب منكم التصرف السليم وإنكم تكونوا مؤدبين.
So, will you coffee?
Yes. No, please, we're fine.
الأصولية المصرية؟ إحنا محتاجين مساعدة يا فندم.
أيام خالدة.
So you and girl, you never...
No.
Jahadad, nous venons d'entendre quelques moments de La Visite de la Fanfare, un film de Eran Kolirine avec Sasson Gabay.
Un très beau film.
Un très beau film, un grand acteur. Et Ronit Alkabetz, cette immense actrice israélienne qui nous a malheureusement quittés en mai dernier. Ce film raconte l'histoire de la fanfare de la police d'Alexandrie en visite en Israël, qui se perd en fait dans un...
Oui, et bien un jeu de mots d'ailleurs.
Dans un village.
Oui, deux villes qui ont le même nom. Et
voilà, c'est... Et dans lequel se dégage une forte fraternité, il faudrait dire une fraternisation, entre les musiciens égyptiens et les habitants israéliens d'une petite ville du Negev. Et ce film inspire deux questions. La première... en lien précisément avec la place de la femme, de la présence de la femme dans la société, très sensuellement incarnée dans ce film par Ronit Alkabetz. Et je pense au livre d'Eliane Amadolevi-Valency, Isaac, gardien de son frère, un livre pionnier, il écrit il y a 50 ans, juste après la guerre des six jours, et consacré au conflit israélo-arabe, et qui commençait par une citation de Marx, mise en exergue, et je cite, « Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme, c'est le rapport de l'homme à la femme. » Manuscrit de 1844. Elle aurait aussi pu citer Lévinas, qui dans Totalité Infinie écrit, à propos du « Je es-tu » de Martin Buber, « Le « Je es-tu » ou « Le « Je tue » ou « Buber » aperçoit la catégorie de la relation interhumaine, n'est pas la relation avec l'interlocuteur, mais avec l'altérité féminine. » Ne pensez-vous pas, Gérard Haddad, que le complexe de Caïn que vous développez a à voir particulièrement avec le féminin, non seulement la mère, mais le féminin, son absence, sa mise à l'écart, l'égalité qui ne lui est pas accordée, l'invisibilité à laquelle elle peut être contrainte?
Oui, absolument. La mise à l'écart du féminin, le féminin, c'est vraiment quelque chose pour... dans le lien social qui est essentiel, c'est, je dirais, l'huile dans l'engrenage. Pas seulement, c'est aussi enfin, le bonheur quotidien, la féminité. Et il y a une catégorie de gens, une certaine psychologie qui ne veut pas avoir le féminin, qui l'exclut, n'est-ce pas? C'est ce que Freud a appelé le complexe de castration. La femme incarne la castration. Et du coup, elle est inférieure. Et d'ailleurs, quand Adler invente son complexe, ou découvre, on pourrait même dire, complexe d'infériorité, à la racine du complexe d'infériorité, c'est celui du masculin, voyant la petite sœur dépourvue de ce pénis, et il la voit comme une être inférieure. Ce sentiment, cet attribut d'infériorité qui est collé à la femme, est à l'origine de toute une pathologie que... Et en particulier dans ces histoires de fanatisme, de totalitarisme, en particulier religieux et islamique, la femme est mise à l'écart. On ne veut pas qu'elle entre. Mais nous, en tant que juifs, nous ne sommes pas indemnes de cela. Nous aimons mettre nos femmes à l'écart, à la synagogue, derrière un voile, derrière une mehitsa, etc.
Oui, mais vous l'avez souligné la dernière fois dans votre dernier livre, ça n'induit pas du terrorisme juif.
Non, mais c'est pas bon. Ma référence en judaïsme, vous le savez, c'est Ishaïa Leibowitz qui disait « Si le judaïsme ne révise pas radicalement sa relation à la femme, il disparaîtra. » C'est ce qu'il disait. Il a dit « La révolution féministe est la seule vraie révolution dans l'histoire humaine, puisque c'est la seule qui a changé quelque chose dans les rapports humains. » Étant leibowitzien, je ne peux qu'appuyer. Ça vient de la bouche d'un homme ultra-orthodoxe qui critiquait l'orthodoxie dans ce sens que la femme était exclue, par exemple, des études talmudiques. Je sais bien qu'aujourd'hui, on bricole quelque chose, mais le jour où il y aura des cours de Talmud où les hommes et les femmes seront assis côte à côte, comme ça se fait dans le milieu juif libéral, eh ben je peux vous dire qu'on aura fait un grand progrès.
Et je suis entièrement d'accord avec vous.
En tout cas, sans les femmes, ce livre, le précédent, pour lequel vous m'avez aussi gentiment invité, c'est grâce à une femme que ce livre a été traduit en arabe.
Alors justement, j'allais y venir, c'était la deuxième question concerne non seulement le contexte international du terrorisme que nous traversons, mais la période d'effervescence à laquelle nous assistons aujourd'hui autour d'une volonté de faire avancer le processus de paix entre Arabes et Israéliens, et je dis bien Arabes et Israéliens de manière précise, et vous revenez de Beyrouth.
Oui.
Et je me suis dit, d'abord j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu pourquoi vous avez voyagé. Vous m'avez offert en arrivant un petit livre où il y a la photo de Paul Celan. Et j'ai la surprise de voir que Paul Celan a été traduit en arabe en même temps que Gérard Haddad.
Peut-être avant.
Oui, peut-être avant.
Et les mêmes personnes.
Et par les mêmes personnes dont vous allez nous parler. Et je me suis dit, est-ce que cette visite, que j'ai sentie importante pour vous, vous a donné peut-être quelques nouvelles pistes qui permettraient de faire bouger les choses?
Écoutez, moi j'ai été invité, je suis allé à Beyrouth, non pas pour faire du tourisme, mais j'ai été invité à Beyrouth. Parce que un jour, je reçois une lettre d'une dame qui s'appelle Racha Al-Amir, qui est une romancière, qui est une musulmane, chiite, poétesse, et qui me dit « Je veux traduire votre livre en arabe. Je veux faire traduire votre livre en arabe. » Et je lui demande, un peu bêtement, « Mais pourquoi vous voulez le traduire ?» Elle m'a dit « Parce que c'est le livre que tout le monde doit avoir lu. Quel compliment on peut faire à l'auteur. » Je ne savais pas encore à l'époque, c'est une femme aussi, était très belle. Ce que j'ai pu découvrir depuis. Et donc, me voilà parti à Beyrouth, un peu comme ça, bon, on m'invite, il y a un salon du livre, j'y vais. Ces quelques jours passés là-bas, peu de jours, ont été pour moi un petit tremblement de terre. En ce sens, d'abord, comme vous venez de le dire, ce sont deux frères, un frère et une sœur, Racha et son frère qui s'appelle Lokman, ont traduit Paul Celan. Et sur le lit, la traduction en arabe, ils ont eu l'idée bizarre, apparemment, de mettre en couverture ce monument commémoratif qui se trouve à Berlin, sur la grande place, près de la porte de Brandebourg, à la Shoah. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez mis ça? Ils m'ont répondu, parce que la Shoah nous concerne, nous aussi, musulmans. Et tant que les Arabes n'ont pas compris ce qu'est la Shoah, ils n'avanceront pas. Et ils paieront à cette incompréhension un prix très élevé. Voilà des paroles de deux chiites. J'ai vu des choses hallucinantes dans ce salon du livre. Un jour, je vois arriver devant moi un immense monsieur avec un turban noir, une espèce de religieux chiite noir, ça veut dire qu'il descend de Mahomet. Je pensais qu'il voulait acheter je ne sais quoi. Et il voulait acheter mon livre. J'ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, j'ai entendu parler, puis moi je suis passionné par la psychologie et par la philosophie. Et nous, chiites, nous sommes très ouverts d'esprit. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'étais avec cette personne et nous avons parlé, ils étaient fascinés par l'hébreu moderne. Racha m'a demandé de lui offrir l'autobiographie d'Eliezer Ben Yehuda, que j'ai moi-même traduit il y a longtemps, ainsi que celle de son fils Itamar Ben Avi. Elle m'a dit, tant que nous, ce que le monde juif a fait de simplifier, de moderniser sa langue, il faudrait, moi c'est mon rêve, que l'arabe se modernise également. Je lui ai envoyé ce livre il y a quelques jours, et elle a tenu à ce que la dédicace que je lui ai faite du livre soit faite en hébreu. Et elle me disait, regarde, nous étions en voiture, nous avons été à Byblos, et puis nous avons un peu tourné... à 70 kilomètres, il y a Israël. Mais pourquoi on se parle pas? Mais c'est quoi ce malheur? Ce qu'ils font nous intéresse. Et ce que nous faisons aussi est intéressant. Et j'ai vu cette tragédie de la haine stupide, sans fondement, de gens qui sont faits pour s'entendre, qui ont un bagage intellectuel très proche. Après tout, le Liban, c'est la ville de Tyr. C'est de là qu'est venu, qui était le roi Hiram, qui était le grand ami de Shlomo Ameler, qui a fait construire le Beth Amikdash.
Le temple.
Il y a tout ce fond. Et puis en plus, les Libanais, les Phéniciens ont été à l'origine de la ville de Carthage Hadasha, la nouvelle ville qu'on appelle Carthage en français courant. J'ai été pris dans un bouillon affectif assez intense et... au salon du livre, il y avait elle avait développé une de mes photos, mais à côté, il y avait la grande photo de Paul Celan, qu'elle trouve un poète extraordinaire, et ainsi que celle de René Char. C'est vraiment le Liban, avec cette diversité religieuse hallucinante, vertigineuse, m'a paru comme ça, comme un laboratoire. Ça m'a plu, parce que dans le monde arabe, vous allez n'importe où, même en Tunisie, vous n'avez pas ce questionnement, ce foisonnement de culturel, comme on l'a à Beyrouth.
Comment vous l'expliquez ?
Tout se traduit à Beyrouth. Même Maïmonide a été traduit en, a été translittéré en arabe à Beyrouth. Je suis contre les purifications ethniques. Je suis pour l'hétérogénéité. La grande Mittel Europa, qui a donné les plus grands génies du XXe siècle, c'était un mélange de peuples. Quand on vit tout seul dans un ghetto, on donne rien de bon. Il faut cultiver son particularisme que j'ai développé. Nous, le judaïsme, c'est une religion du particulier. C'est pas une religion de l'universel. Mais c'est parce qu'on a ce goût du particulier qu'on est curieux des autres particuliers. Et à ce moment-là, je peux dialoguer avec d'autres. Si nous sommes tous dans la même moulinette universelle, on n'a plus rien à se dire, quoi. Bon, ça va, on a les valeurs universelles.
C'est le sens de la fraternité.
La fraternité est une notion qui est reliée à l'universel. Le particulier se méfie. La Torah se méfie. Quand vous lisez ce que dit la Bible du fraternel, c'est jamais, il n'y a pas beaucoup d'effusion, vous savez. Et achira ichiyitra, ton frère vivra avec toi. Pourquoi il faut le dire à chaque fois à propos du taux d'intérêt et de tout ça? Parce que la Torah sait bien que c'est conflictuel, les frères. Alors ne me parlez plus de fraternité universelle. Elle est à conquérir. Elle n'est pas une donnée de départ.
Est-ce que vous avez vécu, vous le mettriez sous la rubrique de la fraternité ou la rubrique de l'amitié dont nous avons
parlé? Je mettrais plutôt ça de la reconnaissance mutuelle. Au fond, ce que me dit ce couple de frères et sœurs, qui ont fait un film d'ailleurs, que j'ai vu à Paris, Tadmor, qui est fait, les horreurs que les Syriens ont fait aux Libanais, ils les ont torturés pendant des années dans des camps de concentration. Ces camps, ces tortionnaires syriens ont été formés par Aloïs Brunner, le bras droit de Eichmann, qui était à Drancy. C'est lui qui a formé les cadres persécutifs de la Syrie et aussi de l'Égypte. Comme le disait mon nouvel ami, Lockman, au fond, nous, Arabes, nous souffrons du nazisme comme vous avez souffert. C'est pour ça qu'il disait qu'il faut comprendre ce qui s'est passé à Auschwitz. Voilà ce que j'ai vécu au Liban en quelques jours.
Et est-ce que ça vous donne quelques idées de pistes pour la suite des événements? Je pense, dans votre livre, vous terminez de manière très très forte, très appuyée, soulignée, sur la question du pardon par rapport à Joseph et la question du pardon. J'aimerais que nous terminions nous aussi sur cette question-là.
Alors d'abord, pour revenir un peu en arrière, je dirais, au fond, vous m'avez demandé si c'est de l'amitié. C'est de l'amour. On s'est aimé pendant ce séjour. Il faut pas avoir honte des mots, si bien avec Slim qu'avec Racha et avec d'autres personnes. Alors je pense que la force de l'amour finira par briser. Vous savez, le Shir HaShirim dit ça. La force de l'amour finit par briser toutes les glaces et tout. Tôt ou tard, la force de l'amour finira par briser. Je ne suis pas né pour la haine, disait Antigone. Alors, le pardon, j'en ai parlé à Beyrouth. Et c'est là qu'un Béroutin, qui était puisque j'ai fait une conférence là-bas, me disait avant pour arriver au pardon, c'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud, la commission justice et je sais plus comment elle s'appelle, il faut d'abord mettre les choses sur la table, il faut qu'il y ait d'abord une justice. À partir du rétablissement d'une certaine justice, il peut y avoir le pardon. Mais le pardon, c'est le salut. S'il n'y a pas, au bout de processus, un phénomène de pardon, c'est-à-dire d'une page qui se tourne, on n'en sort pas. On est dans le malheur permanent, on est dans la guerre permanente, on est dans la destruction. Il y a un physicien là, célèbre qui a dit que l'humanité en a pour quelques siècles à vivre et puis elle va disparaître. L'homme des trous noirs, le nom m'échappe. S'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas d'amour, mais la société ne tiendra pas. Et c'est ça que les femmes nous apprennent aussi, l'amour. C'est elles qui nous enseignent l'amour. Donc, je mettrai, voilà, c'est un grand programme, je suis pas un homme politique, je suis très malheureux de la situation qui existe au Moyen-Orient et auquel le nationalisme juif a une grande responsabilité et j'espère que ce n'est pas dans notre génie de juif que le nationalisme. Voilà.
Merci Gérard Haddad, que Dieu vous entende. ces deux semaines
c'est
de
C'est à nous de le faire.
Dieu. Oui, non, oui. C'est une formule pour dire engageons-nous dans cette action, à la fois de l'amitié, de la fraternité, telle que vous avez essayé de nous le faire comprendre. En tout cas, merci pour ces deux semaines de conversation absolument passionnante, que ça fut un vrai plaisir. Et je renvoie les auditeurs non seulement à cet ouvrage, mais à tous les autres ouvrages. Mais en tout cas, je rappelle le titre de cet ouvrage, Le complexe de Caïn, sous-titré Terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle, paru aux éditions Premier Parallèle. Merci encore.
Merci, Marc.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Julien Dominck, à la réalisation, Dany Journeau. Vous retrouverez toute la biographie et la bibliographie de notre invité sur le site de l'émission que vous pouvez podcaster. Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.